c'est notre ami Evry Schatzman, qui, entre autres titres, est président de l'Union rationaliste, directeur de recherche au CNRS, section astronomie, vice-président de la Société de physique, donc a beaucoup de titres pour nous parler de la science, et qui en outre a écrit un ouvrage qui s'appelle justement « Science et société », qui va ce soir faire cet exposé.
Alors je voudrais aborder ici un certain nombre d'aspects du problème qui se trouve justement déjà étudié dans ce petit livre « Science et société », mais pas tous, et également procéder au moins sur un certain point à une mise à jour. Dans toutes les fois que j'aborde ce problème de science et société, je crois nécessaire de bien établir la différence entre science et technique. Parce que la confusion totale existe dans l'esprit du public entre la science et tout ce qui utilise les résultats de la science. La technique elle-même, si élaborée soit-elle, n'est en règle générale que la mise en œuvre de lois de la nature qui, elles, ont été découvertes et mises en évidence par les méthodes scientifiques. Il est pour moi très important d'opérer cette distinction parce que, à ce moment-là, je vois la responsabilité du scientifique dans la société sous un jour extrêmement différent de la responsabilité de celui qui applique les résultats de la science dans des domaines qui peuvent être techniques ou militaires, par exemple. Je voudrais, à mon point de vue, dire que, pour moi, la science, c'est un corpus de connaissances savantes, c'est un savoir se rapportant aux propriétés des phénomènes naturels, un savoir décrivant les phénomènes que l'on peut observer dans la nature, que l'on peut étudier en particulier par des méthodes expérimentales. Et le but de la recherche scientifique, c'est essentiellement de trouver et de comprendre les lois des processus naturels. Lorsque l'on donne une telle définition de la science, on est amené en même temps à opérer une distinction entre la science en tant que savoir et les moyens dont la science se fait, c'est-à-dire les institutions et les hommes. Parce que, très évidemment, les institutions dépendent énormément de la société dans laquelle l'activité scientifique se déroule, et les hommes eux-mêmes ne sont pas isolés de cette société, et aussi bien dans leur rapport mutuel que dans leur rapport avec la société environnante, ils reflètent les grands phénomènes qui commandent l'activité humaine dans la société, qu'il s'agisse des rapports d'argent ou des rapports de pouvoir, des rapports maître-esclave, etc. Il y a toute une série d'aspects dans la vie du monde scientifique où, dans le fond, on retrouve, parfois atténués, parfois sous forme de caricature, les rapports sociaux qui se trouvent ailleurs. Et je crois qu'il faut opérer une distinction, je le répète, entre l'acquisition de ces connaissances savantes et les moyens, institutions et hommes par lesquels cette acquisition a lieu. Si je veux préciser encore un petit peu cette distinction, je donnerai deux exemples. Le premier concerne la notion de science suivie du nom d'une nationalité. Science française ou science soviétique ou science américaine. S'il s'agit pour moi d'expression parfaitement impropre. Le corpus de connaissances savantes, lui, n'a aucune appartenance de nationalité, d'aucune nature. Par contre, on peut dire que certains résultats ont été obtenus par des scientifiques de nationalité telle ou telle. De la même façon, il existe une terminologie, d'ailleurs un petit peu oubliée à l'heure actuelle, qui distingue entre science pure et science appliquée. En fait, quand on dit science pure, il y a une implication par derrière. On dit souvent aussi science désintéressée. Il y a aussi une implication, il s'agit d'une science qui ne se préoccupe pas des problèmes d'argent. Là encore, on confond par l'emploi du mot science, le comportement des individus dans leur rapport avec la société, dans leur motivation et tout le processus d'acquisition des connaissances. Ceci étant, je voudrais aborder un certain nombre d'aspects positifs et un certain nombre d'aspects négatifs de l'activité de recherche scientifique. Pour préciser encore, je me limiterai pour l'essentiel de cet exposé au problème des sciences de la nature, allant par conséquent depuis la mécanique et la physique, en passant par la chimie, jusqu'aux sciences biologiques et naturelles. Le problème des sciences humaines est différent, au moins pour les plus critiques d'entre elles, c'est-à-dire pour la psychologie et la sociologie, et j'aborderai seulement brièvement le problème plus tard. En premier lieu, la recherche scientifique est une école de pensée. Est une école de pensée parce que l'acquisition de nouvelles connaissances ne peut se faire qu'en mettant en cause des connaissances acquises antérieurement. Il y a quelques exemples historiques de remise en cause qui se sont accompagnés de batailles d'idées extrêmement violentes. J'en citerai deux ou trois. Parmi les plus... La première étant la bataille menée par Pasteur contre la notion de génération spontanée. Il y avait un certain nombre d'idées reçues sur la façon dont les phénomènes vivants se produisaient, et Pasteur a montré que ces idées reçues étaient fausses. Mais ça n'a pas été sans bagarre et sans une série de... et sans qu'il ait à donner des démonstrations spectaculaires. Sur un autre plan, lorsque, au début du siècle, la relativité s'est imposée, dans le cercle des physiciens les plus avancés, les notions de relativité heurtaient tellement le sens commun qu'elles ont été refusées par un très grand nombre de scientifiques, allant depuis des physiciens qui auraient dû au moins comprendre de quoi il s'agissait, jusqu'à beaucoup de gens qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la physique, mais qui embrassaient avec ardeur la cause des opposants à la relativité. Et la bataille scientifique elle a duré à peu près une quarantaine d'années. On peut considérer que ce n'est pas avant la fin des années 30 que la bataille en faveur de la relativité a été définitivement gagnée. Et on trouve ainsi un très grand nombre d'exemples dans lesquels on s'aperçoit qu'une idée scientifique nouvelle, une représentation du monde, finalement du monde physique, ne peut s'imposer qu'après beaucoup de batailles et exigeant de la part de ceux qui les mènent la capacité de remettre en cause les idées reçues. Cela veut dire donc qu'ici il n'y a pas d'argument d'autorité, il n'y a pas qui tienne il n'y a pas de respect a priori pour ce qui a été trouvé et pensé par nos prédécesseurs, si grands fussent-ils. Les faits doivent être interprétés et leur interprétation et leur compréhension ne peut très souvent se faire qu'en remettant en cause ce qui a été dit sur eux. On oublie quelquefois à quel point cette discipline qui consiste à respecter avant tout la vérité des faits peut être forte. La recherche scientifique ne se déroule pas dans notre société indépendamment de l'environnement social. Et les découvertes scientifiques ont des applications. Ce qu'il y a, et c'est une des thèses favorites du milieu scientifique lui-même, c'est que les découvertes importantes sont complètement imprévisibles et que les applications qui en découlent n'auraient jamais pu être faites avant les découvertes qui les ont permises. J'ai ici une série d'exemples qui ont été donnés il y a quelques années à celui qui était alors le ministre de la Recherche scientifique, M. Gallet, lors d'une visite au CEA. Les exemples sont les suivants. Si l'on avait demandé d'inventer un moyen de communiquer aisément à distance avant 1881, on ne l'aurait pas trouvé. 1881 est la date de la découverte des ondes hertziennes, c'est-à-dire des ondes radio. Si l'on avait demandé, avant à peu près la même époque, les moyens de voir à travers les cordes opaques, on aurait toujours pu chercher, on n'aurait pas trouvé ce moyen avant la découverte des rayons X par Röntgen. Si l'on avait demandé, avant 1939, un explosif extrêmement puissant, supérieur à tous les explosifs connus jusque-là, on aurait toujours pu chercher, on ne l'aurait pas plus trouvé, avant d'avoir connu la fission nucléaire et son application majeure, la bombe atomique. Des phénomènes qui se produisent dans une variété de corps comme le silicium, qu'on appelle des semi-conducteurs, ont été étudiés et compris au début des années 50. Avant la découverte du transistor, on aurait toujours pu demander d'inventer un récepteur radio léger, compact, consommant très peu d'électricité et très résistant, très solide. On aurait pu le chercher, on ne l'aurait pas trouvé. Il a fallu la découverte des propriétés des semi-conducteurs pour que cette application puisse se faire. Enfin, dernier exemple, l'holographie, qui est un moyen de sonder l'intérieur des corps opaques par des ultrasons ou de reconstituer des images au moyen de systèmes optiques utilisant le laser. L'holographie a été inventée il y a à peu près une quinzaine d'années. Eh bien, par exemple, je lisais dans Le Monde que l'on peut à l'heure actuelle, par l'holographie acoustique, étudier complètement la situation d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Une telle réalisation pratique aurait été impossible avant l'invention de l'holographie il y a une quinzaine d'années. Je dis invention, je pourrais dire découverte également, dans ce cas-là. Bref, il y a un caractère imprévisible des découvertes, ce qui veut dire que l'une des fonctions de la recherche scientifique, c'est justement de fournir ce stock de connaissances scientifiques dont les applications sont imprévisibles. Maintenant, évidemment, cela ne nous garantit pas que ces découvertes auront lieu dans tel ou tel autre pays, qu'elles auront lieu à tel ou tel moment. Là, il s'agit de quelque chose qui n'est pas non plus prévisible et pour lesquels une politique de recherche ne peut pas définir des objectifs à l'avance. J'ai parlé tout à l'heure du caractère particulier, comme école de pensée, de l'activité scientifique. Il y a un domaine dans lequel il est important que cette possibilité se manifeste, c'est au niveau de l'enseignement. Il y a un problème de l'enseignement de la science, que ce soit au niveau de l'école secondaire ou au niveau de l'enseignement supérieur. Il n'y a que trop tendance et trop aisément à donner un enseignement dogmatique. Un enseignement dogmatique, c'est un enseignement dans lequel les lois de la nature sont présentées comme une sorte de catéchisme qu'il s'agit de répéter et qu'il s'agit d'utiliser suivant les règles que l'on a définies. Et cela ne donne pas du tout l'impression aux élèves ou aux étudiants que ces énoncés décrivent effectivement des processus naturels. Cela peut être lié au fait que les sciences sont d'abord et avant tout des sciences expérimentales et que l'enseignement d'une science par les livres, ce n'est pas du tout la même chose que l'enseignement d'une science comme quelque chose qui se manipule, qui se touche, qui permet une action sur la matière ou sur la nature. Je me souviens, et là je peux donner un tour un peu personnel à la chose, je me souviens d'élèves de première autrefois à qui on enseignait l'électricité et à qui il était tout à fait indifférent que le potentiel, la différence potentielle soit le produit de la résistance par l'intensité, ou la résistance produit du potentiel par l'intensité, ou l'intensité produit du potentiel par la résistance. C'était une petite musique, n'est-ce pas, qu'on répétait, et au besoin on se trompait, parce que dans le fond, elle n'avait pas une signification se rapportant à un phénomène naturel. Il y a là une difficulté, et il y a actuellement des efforts qui sont faits, essentiellement au niveau de l'enseignement secondaire, pour essayer d'amener, d'une part, un enseignement des sciences expérimentales plus tôt dans la scolarité, et ensuite de donner un enseignement qui ne soit pas dogmatique. Ne serait-ce que dans Le Monde d'hier soir, il y avait un article concernant les travaux d'une commission relatif à l'enseignement des sciences naturelles, et qui insiste justement sur le caractère expérimental de ces sciences. Mais par ailleurs, il y a des travaux qui sont menés depuis plusieurs années actuellement pour essayer d'introduire en France un enseignement de la physique qui commence plus tôt et qui soit justement plus proche de l'expérience, et ceci représente des problèmes par rapport aux horaires et par rapport au programme, et il y a des difficultés qui se rencontrent à la réalisation de ce programme d'enseignement et dont je soupçonne qu'il est dû au fait que ce n'est peut-être pas si innocent que cela d'enseigner les sciences d'une façon qui ne soit pas dogmatique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Au niveau de l'enseignement supérieur, je crois totalement impossible que l'on donne un enseignement scientifique de haut niveau si l'on n'a pas soi-même fait de la recherche scientifique, et je dirais même si on ne la pratique pas soi-même. Je pense en effet que lorsque l'on aborde la littérature scientifique telle qu'elle est parue, telle qu'elle paraît dans les revues spécialisées, et ce qui en définitive doit apparaître dans l'enseignement tôt ou tard, il est impossible d'émettre sur cette littérature scientifique un jugement qualifié si on n'a pas soi-même l'expérience de ce que c'est que l'acquisition de ces connaissances. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'en pratique, pour moi, cela plaide de façon extrêmement importante en faveur d'une recherche scientifique faite par les enseignants des sciences au niveau de l'enseignement supérieur. Je voudrais maintenant aborder un problème qui est peut-être un peu plus critique. Il s'agit des rapports entre la recherche scientifique et le complexe technico-militaire. Il s'agit là d'un aspect qui a soulevé beaucoup de discussions au cours des dernières années et concernant la responsabilité des scientifiques. La pièce essentielle du dossier concerne l'attitude d'un certain nombre de scientifiques américains pendant la guerre du Vietnam, d'une part, et d'autre part, l'attitude d'un certain nombre de scientifiques américains au sujet, non pas de la bombe atomique, mais surtout de la bombe à hydrogène. En effet, il y a un certain nombre de scientifiques américains qui ont pris l'initiative, vers 1949, de proposer au gouvernement américain de se mettre à son service pour la réalisation de la bombe à hydrogène, et qui d'ailleurs ont insisté pour que la bombe à hydrogène soit faite. L'un d'entre eux, Teller, est quelqu'un qui, en même temps, a exprimé à cette occasion un anticommunisme extrêmement violent et qui était basé sur la notion de la terreur qu'il avait, personnellement, de l'extension possible du communisme dans le monde et particulièrement de la possibilité que l'Union soviétique ait en premier lieu la bombe à hydrogène, dont déjà tout le monde savait qu'elle était en principe possible. L'autre exemple concerne une commission américaine réunissant un certain nombre de scientifiques de toutes disciplines et qui ont été consultés à différentes reprises au cours de la guerre du Vietnam. Et bien que les publications des procès-verbaux de ces réunions de commission, telles qu'ils sont données dans les Pentagon Papers, ne soient pas absolument sûres du point de vue de l'exactitude de ce qui s'y est passé, il apparaît néanmoins comme incontestable qu'un certain nombre de scientifiques, sinon directement par cette commission, au moins recrutés pour d'autres tâches, par le moyen de cette commission elle-même, par le fait qu'ils en faisaient partie, ont participé directement comme conseillers scientifiques du gouvernement américain pour des affaires concernant l'emploi massif de l'électronique, les bombes à ailettes, les bombes à billes et quelques autres. Ceci a fait l'objet de toute une série de publications, en particulier mon collègue Godman s'est beaucoup intéressé au problème de l'activité d'un certain nombre de scientifiques américains dans ces problèmes militaires. Eh bien, il s'agit de savoir où est la responsabilité des différents scientifiques et à quel moment ils ont une responsabilité particulière à prendre et à quel moment la responsabilité est une responsabilité sociale. Je voudrais, pour cela, reprendre l'exemple classique de la bombe atomique. L'histoire de la bombe atomique, si on ne veut pas remonter au déluge, l'histoire de la bombe atomique commence en 1905 avec la découverte de la relativité, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui met en évidence le fait que il y a une sorte d'équivalence entre la matière et l'énergie, et qui immédiatement fait naître cette notion que la matière peut être un réservoir d'énergie gigantesque. Ceci s'est trouvé confirmé dès les débuts des études de la radioactivité, dès qu'on a pu faire des mesures précises en radioactivité, où l'on a effectivement découvert que lorsqu'il y avait une transformation qui se produisait, eh bien, il y avait de l'énergie qui était disponible au dépens de la masse. Il y avait la masse telle qu'on peut la peser avec une balance avait changé en quantité, et ce qui avait disparu était apparu sous forme d'énergie, c'est-à-dire de mouvement. Et par conséquent, dès que cela a été envisagé, et cela remonte déjà à Pierre Curie avant 1914, dès que ça a été trouvé, il est apparu qu'il y avait dans le radium, puisque c'est à cela qu'on pensait à l'époque de Pierre et Marie Curie, des réserves d'énergie extrêmement importantes et pouvant même, cela a été dit à l'époque par Pierre Curie, présenter des dangers pour l'humanité. Lorsque le phénomène de fission nucléaire dont j'ai parlé tout à l'heure a été découvert en 38-39, c'est là qu'est apparue la possibilité pratique d'extraire cette énergie de la matière. Jusque-là, il s'agissait d'une espèce de fiction, on ne savait pas comment extraire cette énergie, et à telle enseigne que un physicien anglais a même énoncé cette phrase définitive, « Ceux qui croient pouvoir tirer de l'énergie de l'atome déraisonnent ». C'était dans les années 30. Il manquait effectivement une découverte, c'était celle de la fission de 38-39, et à ce moment-là, tout de suite, il est apparu qu'on pouvait tirer de l'énergie de l'atome, et en France même, cela a fait l'objet de la part de Francis Perrin et de Joliot, cela a fait l'objet d'une prise de brevet concernant le premier système récupérant de l'énergie par un moyen de la pile nucléaire, ou éventuellement, avec la notion de masse critique, par la bombe atomique. Eh bien, on savait donc en 1938 que la bombe atomique était en principe possible. Était-elle pratiquement possible? C'était une question qui pouvait encore se débattre. Mais en 1942, les scientifiques américains, alertés par les nouvelles qui pouvaient filtrer sur ce qui se passait en Allemagne, on pensait que les Allemands étaient éventuellement capables de réaliser une bombe atomique. Et c'est de cette façon-là que Einstein a été amené à faire cette fameuse démarche auprès de Roosevelt, où il l'a mis en garde et lui a fait savoir qu'il y avait un danger réel que la bombe atomique puisse être réalisée par les Allemands. Et c'est cet acte, c'est cette intervention d'Einstein qui a déclenché la mise en œuvre du Manhattan Project, cet énorme complexe technico-scientifico-militaire par lequel, depuis les premières expériences de Fermi à Chicago jusqu'à la première explosion de bombes atomiques dans le désert du New Mexico, un grand nombre de scientifiques américains, dans des conditions de très grand secret, se sont consacrés à sa réalisation. Et bien entendu, il faut se dire que ceci s'est passé dans des conditions de la guerre contre les nazis, de la guerre contre le fascisme, et qu'un grand nombre des scientifiques vivant en Amérique qui ont participé à la réalisation de la bombe atomique étaient eux-mêmes des antifascistes. C'est-à-dire que le fait de consacrer leurs forces à ce qui leur semblait être la nation qui menait le combat le plus important contre le fascisme, au moins vu d'Amérique, était une contribution à laquelle ils étaient volontaires. Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est où commence la responsabilité? Est-ce qu'elle est au moment où Einstein découvre la relativité restreinte? Est-ce que c'est au moment où, dans les expériences de laboratoire à très petite échelle, on découvre la fission nucléaire? Est-ce que c'est au moment de l'intervention d'Einstein auprès de Roosevelt? Il est clair que les responsabilités il est clair qu'on peut déclarer que la responsabilité, elle est présente à tout moment. Ce qui veut dire à ce moment-là qu'il n'y a pas de recherche scientifique qui, en raison des potentialités qu'elle contient dans le domaine des applications, notamment dans le domaine des applications militaires, n'entraîne à une responsabilité. Il s'agit donc de savoir à quel moment le scientifique doit prendre ses responsabilités socialement parlant, et si un code de déontologie scientifique, exactement comme il existe un code de déontologie médicale, peut être envisagé. En tout cas, il existe parmi les scientifiques un certain mouvement en faveur d'une attitude responsable qui consisterait essentiellement à refuser chez les scientifiques toute participation à une activité en liaison avec les recherches militaires, les recherches sur les armes, par exemple. Mais je pense que la responsabilité du scientifique ne se limite pas à cette relation avec les militaires, qu'il n'y a pas seulement la possibilité du refus de participer à des activités militaires. Il y a aussi d'autres aspects de cette responsabilité et qui doit mener les scientifiques à ne pas agir seuls, c'est-à-dire à ne pas se retrouver simplement en tête à tête avec le pouvoir politique et avec tout ce que ce pouvoir politique peut exiger d'eux avec différentes pressions possibles, en particulier sur leurs moyens de travail. Le faire que les scientifiques ne soient pas isolés, qu'ils soient associés, je dirais, au mouvement populaire, est pour moi un élément essentiel de la responsabilité des scientifiques. Vouloir purement et simplement accuser les scientifiques d'irresponsabilité ou de désir de puissance via la réalisation de moyens de destruction extrêmement puissants me paraît une position erronée en ce sens qu'elle ignore complètement les rapports possibles du scientifique avec la société environnante et particulièrement avec les mouvements politiques. Je crois que c'est un aspect dans ce problème de la responsabilité du scientifique qui n'a pas été suffisamment abordé et discuté. Je le répète, pour moi, le scientifique isolé ou le scientifique qui est lié étroitement à une organisation politique, ce n'est pas la même chose. Alors, il y a un autre aspect du poids du complexe technico-militaire dans l'activité scientifique. Il y en a un premier qui concerne la possibilité de réaliser certains grands programmes de recherche scientifique. En effet, non seulement un grand programme est quelque chose de coûteux, comme par exemple les grands programmes nucléaires du type Organisation de physique nucléaire de Genève, le CERN, ou bien les énormes dépenses de la recherche spatiale. Et il s'agit de savoir, d'une part, s'il est légitime d'engager ces recherches, et d'autre part, au cas où c'est légitime, si on peut effectivement faire les dépenses en question. Il y a là-dedans deux phénomènes qui jouent. L'un peut être un phénomène purement économique, c'est-à-dire que lorsque quelque chose comme 400 millions de francs suisses sont engagés pour commencer pour l'Europe entière la construction d'un grand accélérateur à Genève, les sommes en question qui sont données par les gouvernements sont en définitive utilisées à faire à des commandes qui sont passées à des firmes industrielles capables de les exécuter. Eh bien, la réalisation de ces programmes est en fait liée au désir que peuvent avoir les hommes politiques d'alimenter par le moyen de ces commandes certains secteurs scientifiques de pointe, ce qui est un moyen d'augmenter leur capital, ce qui est un moyen de mettre à l'épreuve des techniques extrêmement élaborées et d'avant-garde, et qui par conséquent augmente le potentiel technique de ces pays. Le deuxième, et ceci se trouve certainement vrai dans le cas des grands accélérateurs. Vous voyez, par exemple, en France, on va réaliser à Caen une machine qui est connue sous le sigle de GANIL, ces grands accélérateurs nucléaires d'ions lourds. Cette machine, on démarre avec 40 milliards d'anciens francs. Eh bien, il est clair que c'est l'industrie métallurgique, l'industrie électrique et l'industrie électronique qui vont bénéficier de ces commandes. Par conséquent, même du point de vue du plan de relance, et effectivement, on a accordé les crédits de GANIL à cause du plan de relance, cela joue un rôle important. Le deuxième aspect concerne les potentialités militaires. La recherche spatiale aux États-Unis n'aurait certainement jamais pris naissance si, à côté des objectifs scientifiques, il n'y avait pas eu des objectifs militaires. Cela est vrai en URSS aussi, où l'on sait par exemple que la série des satellites Cosmos, qui sont lancés régulièrement à raison de un par semaine, sont des satellites espions, qui n'ont pas d'autre but que de faire une surveillance du globe. De la même façon, la navette spatiale, qui est un gigantesque projet spatial américain, comportera pour un lancement sur trois d'intérêt civil, les deux autres seront d'intérêt militaire. Bref, dans ce domaine-là, ce que les scientifiques recueillent, c'est éventuellement des miettes de ce qui a d'autres intérêts, aussi bien sur le plan technique que politique. Il y a également un autre aspect, plus subtil, des applications possibles et qui intervient à travers une certaine relation de l'individu avec la société environnante. Il s'agit du choix des thèmes de recherche. Et je suis absolument persuadé qu'il existe des domaines scientifiques, c'est vrai dans certains domaines de la chimie, c'est vrai dans certains domaines de la physique, j'en ai eu des exemples que l'on m'a donnés. Le fait que certains thèmes de recherche paraissent plus susceptibles d'application entraîne une orientation dans la préoccupation. Ça ne veut pas dire que les scientifiques en question ne vont pas réellement trouver des lois de la nature se rapportant à certains processus naturels. Mais ils auront peut-être orienté leur recherche dans un domaine où ces découvertes-là sont peut-être susceptibles d'application et des applications qui leur permettent alors à eux de se vendre, soit de se vendre au milieu industriel, soit de se vendre auprès des militaires. Alors là c'est aussi un problème et on pourrait peut-être, en examinant de près certains exemples, le démontrer plus sérieusement que je viens de le faire par ces affirmations. J'en viens maintenant à un autre point que j'appellerais science et indépendance nationale. Les scientifiques constituent le support de haut niveau de tout développement technologique important. On imagine mal qu'une formation à une technologie avancée, d'avant-garde, puisse être faite autrement que par des gens qui en dominent les caractéristiques et les propriétés et qui sont eux-mêmes éventuellement susceptibles d'y apporter des perfectionnements et des améliorations. Et ceci n'est pas concevable dans une société qui, de façon générale, n'aurait pas un niveau scientifique élevé. Il faut bien faire attention, dans ce que je vais dire ici, encore une fois, à ne pas confondre recherche fondamentale, c'est-à-dire science au sens de découverte de lois de la nature, avec le domaine des applications. Ce que je veux dire, et j'insiste dessus, c'est que la présence d'un corps scientifique de haut niveau est nécessaire au développement par ailleurs des technologies d'avant-garde et qui sont étroitement liées à des problèmes d'indépendance nationale. Il y a un exemple qui m'a été donné récemment et qui concerne les composants électroniques et les circuits intégrés. Il s'agit d'une pièce essentielle à l'heure actuelle de toute machinerie électronique, quelle qu'elle soit. Qu'il s'agisse des petits postes radio à transistor qu'on met dans sa poche, maintenant des télévisions ou, à plus grande échelle, des ordinateurs. Or, à l'heure actuelle, nous sommes tributaires en presque totalité pour les composants électroniques de l'importation, entre autres, particulièrement des États-Unis. Si l'on fait l'hypothèse d'une victoire politique socialiste, on peut se demander si les sociétés multinationales qui ont le monopole ou le quasi-monopole de l'industrie des composantes électroniques ne seraient pas capables, par représailles, de cesser de fournir la France en composants électroniques. On peut penser que dans un tel cas, à peu près tout ce qui est électronique en France tombait progressivement en panne et ne pourrait plus se remettre à marcher. C'est-à-dire qu'il y a là un problème d'indépendance nationale. donne cet exemple à travers un problème technologique clair, mais je pense que l'une des fonctions des scientifiques, par leur existence même, est de pouvoir apporter, le cas échéant, je pourrais dire dans le cas d'une sorte de mobilisation, leur savoir afin de résoudre un problème politique du type indépendance nationale. Je voudrais aborder ici, maintenant, un aspect tout à fait différent du problème de la science dans la société actuelle. C'est la façon dont la science est vue par le public. J'en ai dit un mot au début en parlant de cette confusion constante entre science et technique. Aux yeux du public, il n'y a pas de différence. Je dirais, dès qu'on fait quelque chose qui a plus ou moins rapport à de la physique ou de la chimie ou des mathématiques, c'est de la science, quelle que soit la façon dont on le fasse. Mais on peut distinguer plusieurs aspects. Le premier, c'est que tout ce qui se rapporte à la science a un caractère quasi magique. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit de façon extrêmement claire chaque fois que l'on voit une émission de la télévision consacrée à une question scientifique. On vous présente des résultats, on vous met dans la situation que vous soyez obligé, en quelque sorte, d'admirer les résultats qu'on vous présente. Il faut croire qu'il y a là, par un mécanisme qu'on ne vous décrit pas, un pouvoir qui apparaît brusquement et dont le caractère mystérieux est dans le fond pas très différent du pouvoir du magicien des sociétés primitives, ou celui au pouvoir que l'on croyait qu'il avait. Le deuxième aspect de la présentation de la science aux yeux du public et la constante confusion entre science et technique. Et si je prends un exemple journalistique sur lequel j'ai fait des repères précis, il s'agit de la rubrique scientifique du Monde. Et bien, sous le titre science, on vous présentera aisément un résultat de pure technologie. Par exemple, il n'y a pas un événement spatial qui ne soit présenté sous la rubrique science, alors que la part de la science, c'est-à-dire l'objectif étant la découverte de lois de la nature, peut être absolument insignifiant. Il y a là quelque chose d'autant plus caractéristique que, dans le fond, il ne viendrait à l'idée de personne à l'heure actuelle de présenter la construction de la ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Paris et Lyon comme une affaire scientifique. Tout simplement parce que on ne croit pas que l'on va faire des progrès à la connaissance par ce procédé, et par conséquent cela relève plutôt des transports que de la science. Eh bien, je ne vois pas pourquoi cette confusion s'installe constamment au niveau de la presse, et c'est vrai également au niveau de la radio ou de la télévision. Il y a encore un autre aspect plus subtil, mais que l'on trouve, je dirais, dans des articles de seconde zone, comme par exemple, m'en a été fourni l'exemple il y a 3 ou 4 ans, un éditorial de Jean Duché dans Elle. C'est la confusion entre rationalité technologique et agression sociale. Dans le cas présent, il s'agissait d'un problème de pollution. Il s'agissait du fait que certaines usines crachaient des fumées abominables et où on expliquait, vous savez, si ces usines font tant de pollution, c'est parce que c'est plus rationnel. Et en réalité, là-dedans, il y avait l'évacuation complète de la réelle motivation pour laquelle l'usine crachait des fumées insupportables, c'était que quelque part ça coûtait moins cher de faire comme cela que de filtrer, réutiliser, etc. Autrement dit, il y a confusion entre une rationalité qui est celle du profit le plus élevé et celle d'une rationalité tout court. Et ceci est extrêmement présent dans l'esprit des gens qui ont fondamentalement tendance à associer tout ce qui se rapporte à la science et à la technologie à des problèmes politiques du type politique, je vais m'exprimer là-dessus, liés à une certaine forme de répression sociale.